Cet exercice de la séance 3 concerne la capacité thermique des solides. Le tableau que vous avez sous les yeux présente la capacité thermique massique d'un ensemble de substances en phase solide. Les valeurs sont assez variées. On observe que la capacité thermique molaire à haute température a une valeur proche de 25 joules par Kelvin et par mol, ce qui est proche de 3 fois la constante des gaz parfaits. C'est ce que l'on appelle la loi de Dulong et Petit, du nom des deux physiciens français qui ont fait cette observation. Sur cette figure est représentée l'évolution de la capacité thermique en fonction de la température. On observe qu'elle tend vers une valeur proche de 3R à haute température. On observe toutefois qu'à basse température, cette capacité thermique molaire décroît rapidement vers 0 et d'autant plus fortement que le solide est plus dur. Plusieurs modélisations ont été proposées. Elles sont toutes fondées sur le mouvement des atomes. La première, celle associée à la loi de Dulong et Petit, est fondée sur l'agitation thermique des atomes. Les deux suivantes datent du début du siècle dernier. La première, appelée modèle d'Einstein, date de 1907. Elle prend en compte la quantification du mouvement de vibration des atomes autour de leur position d'équilibre. Quelques années plus tard, en 1912, Debye propose un modèle qui prend en compte le caractère collectif de ces vibrations atomiques. Le théorème d'équipartition de l'énergie va nous permettre de retrouver la loi de Dulong et Petit. Ce théorème vaut lorsque l'énergie dépend quadratiquement de l'une des variables de ce que l'on appelle l'espace des phases du système, et ce de façon indépendante des autres variables décrivant le système. Nous allons montrer que la valeur moyenne de AQ² est égale à 1/2 de KT. Considérons l'énergie E comme fonction de Q et d'autres variables grand Q. Elle s'écrit AQ² plus F de Q. La valeur moyenne de AQ² s'obtient comme une intégrale de AQ carré pondérée par le facteur de Boltzmann exponentiel moins bêta E sur toutes les valeurs des variables petit q et grand Q, ceci devant être divisé par l'intégrale de exponentiel moins bêta E des Q des grands Q. Compte tenu de l'expression de grand E, comme somme d'une fonction de petit q et d'une fonction des autres variables grand Q, on va pouvoir factoriser. Il est clair que l'on peut alors éliminer l'intégration relative aux variables grand Q. Reste alors un calcul d'intégrale gaussienne. On obtient alors le résultat, valeur moyenne de AQ² égale 1 sur 2 bêta, c'est-à-dire 1/2 de KT. Ce théorème d'équipartition de l'énergie peut dans un premier temps être appliqué au cas des gaz, successivement monoatomiques et diatomiques. Considérons tout d'abord un gaz monoatomique. L'énergie se résume à l'énergie cinétique des grands N molécules, c'est-à-dire en prenant en compte les trois directions possibles pour le mouvement. On peut donc appliquer le théorème d'équipartition de l'énergie. En conséquence, la capacité thermique molaire vaut 3/2 de R. Si les molécules sont diatomiques, il s'ajoute de l'énergie potentielle de vibration et de l'énergie potentielle de rotation. Chacun de ces types d'énergie fait apparaître pour chaque molécule deux termes quadratiques. Pour la vibration, c'est un oscillateur harmonique. Et pour la rotation, ceci est lié aux capacités de rotation dans les deux directions d'espace. En conséquence, l'énergie s'écrit. Chacun de ces modes d'énergie va ainsi contribuer à 2 fois 1/2 de KT. En conséquence, valeur moyenne de E est égale à 7/2 de NKT et la capacité thermique molaire est égale à 7/2 de R. Dans le modèle de Dulong et Petit, on considère que les atomes vibrent autour de leur position d'équilibre. À chacun des n atomes est associé trois oscillateurs correspondant aux trois directions de l'espace. Ces oscillateurs sont considérés comme indépendants les uns des autres. Revenons sur la notion d'oscillateur harmonique à une dimension, ce que je représente ainsi, une masse m qui oscille sous l'effet d'un ressort de raideur k selon la direction x. Le mouvement de cette masse est décrit par l'équation suivante, mx de point égale moins kx, dont les solutions sont x de t égale grand A sinus oméga t d'une phase, où oméga est égal à racine de k sur m. On peut ainsi écrire l'énergie cinétique et l'énergie potentielle comme fonction du temps. Les deux grandeurs oscillent en opposition de phase. Leurs valeurs moyennes sont égales à 1 quart de m a carré oméga carré. À l'échelle macroscopique, on décrit les propriétés d'élasticité à travers le module d'ion grand E, tandis qu'à l'échelle microscopique, cette élasticité est décrite par un modèle de force entre atomes représenté sur cette figure et qui fait apparaître autour de la position d'équilibre une constante de rappel du ressort grand K. Nous souhaitons faire le lien entre le module d'Young grand E et la constante de force grand K. Considérons le modèle macroscopique suivant. Un échantillon parallélépipédique de longueur L de section S sur lequel j'exerce une force F de sorte que j'observe un allongement delta L. La loi de Hooke exprime le fait que la contrainte de traction est proportionnelle à la déformation moyennant le module d'Young grand E. Sigma, c'est la force par unité de surface, et epsilon, la déformation, c'est delta L sur L. À l'échelle atomique, on écrit une relation entre la variation de la position de deux atomes, delta A, sous l'effet d'une force petit f, à pouvoir s'écrire sous la forme K delta A. Par homogénéité de la déformation, selon la direction grand L, delta A sur A est aussi égal à delta L sur L. Par ailleurs, dans une section S, on a un ensemble d'atomes, P égale S sur A carré, de sorte que la force macroscopique grand F est égale à P fois la force microscopique petit f. Ainsi, F sur S égale E delta L sur L égale E delta A sur A, d'où F sur P A carré égale E delta A sur A, d'où finalement E égale K sur A. On obtient ainsi une relation entre le module d'Young grand E, la force de rappel à l'échelle atomique K et la distance interatomique petit a. Faisons une application numérique dans le cas du fait. On sait que ρ est égal à m sur a cube. En conséquence, on est capable de calculer a comme m sur ρ à la puissance 1 tiers. M, on le connaît à partir du numéro atomique du fer. On déduit avec la connaissance de ρ que a pour le fer est égal à 2,3 angstreux, c'est-à-dire 2,3 10 puissance moins 10 mètres. Et ensuite, oméga égale racine de k sur m est égal à la racine de ea sur m. On connaît m, on connaît a, on connaît e. On en déduit que oméga pour le fer est égal à 2,2 10 puissance 12 hertz. Toute la description précédente repose sur de la mécanique classique. En 1907, 2 ans après avoir appliqué la mécanique quantique au rayonnement avec le concept de photon, Einstein applique les mêmes principes à la quantification de l'oscillateur harmonique. En mécanique classique, l'énergie d'un oscillateur harmonique varie continuellement. La mécanique quantique montre que l'énergie est quantifiée selon la règle En égale n plus 1,5 h bar oméga, où h bar oméga est le quantum d'énergie, h bar la constante de Planck, oméga la pulsation de l'oscillateur harmonique, et petit n l'indice correspondant à l'oscillateur harmonique. Sur la figure sont représentés les niveaux d'énergie régulièrement espacés et les fonctions d'onde sur chacun de ces niveaux d'énergie. Examinons maintenant l'effet de la quantification sur la valeur moyenne de l'énergie et sa dépendance en température. L'énergie moyenne d'un oscillateur harmonique, en fonction de la température bêta, va pouvoir s'écrire sous la forme d'une somme discrète et non pas d'une intégrale. Ceci est égal à la somme sur n de n plus 1/2 epsilon exponentielle moins bêta n plus 1/2 epsilon divisé par la somme sur n des facteurs de Boltzmann exponentielle moins bêta n plus 1/2 epsilon. Il vient epsilon facteur de 1/2 plus une somme sur n des n exponentielle moins bêta n epsilon normalisé par la somme sur n des exponentielles moins bêta n epsilon. On doit donc calculer une grandeur grand A égale à une somme sur n de n x puissance n sur la somme sur n des x puissance n, où x est égal à exponentielle moins bêta epsilon. Il est aisé de voir que grand A est égal à x sur 1 moins x, de sorte que l'énergie moyenne de l'oscillateur harmonique s'écrit epsilon facteur de 1/2 plus 1 sur exponentielle bêta epsilon moins 1. Ainsi, si l'on trace l'énergie moyenne de l'oscillateur harmonique à laquelle on retranche h bar oméga sur 2 et divisé par l'énergie thermique kT, c'est-à-dire multiplié par bêta, c'est égal à bêta h bar oméga sur exponentielle bêta h bar oméga moins 1, qui est tracé ici. Ce que l'on observe, c'est que pour bêta h bar oméga petit, c'est-à-dire à haute température, cette grandeur tend vers 1, ce qui veut dire que l'énergie moyenne de l'oscillateur harmonique est égale à kT, puisque h bar oméga, dans ce cas, est très petit. On retrouve donc la limite classique à haute température. En revanche, lorsque la température baisse suffisamment pour être inférieure à h bar oméga sur k, ce terme tend vers 0, ce qui veut dire que l'énergie moyenne de l'oscillateur harmonique tend vers h bar oméga sur 2, c'est-à-dire que le système se trouve dans le niveau fondamental de l'oscillateur harmonique. C'est ainsi à basse température qu'on observe des déviations par rapport à la description classique. À partir de là, on peut alors écrire l'énergie molaire du solide en fonction de la température, en faisant apparaître une température caractéristique, qu'on appelle température d'Einstein, qui est égale au quantum d'énergie de l'oscillateur harmonique h bar oméga. Et de là, par dérivation par rapport à la température, on déduit l'expression de la capacité thermique molaire qui est donnée sur ce slide. Est ici représentée la capacité thermique molaire d'Einstein en fonction de la température. Elle décroît à basse température, c'est-à-dire pour une température inférieure à la température d'Einstein, sont représentés différents points expérimentaux. Le modèle colle bien une fois qu'on a ajusté la valeur de la température d'Einstein, dont on espère qu'elle soit en correspondance avec la pulsation de l'oscillateur harmonique associée à la force de rappel et à la masse des atomes. On trouve ainsi l'observation de la chute de la capacité thermique molaire à basse température, ainsi le modèle de haute température qui fait apparaître le théorème d'équipartition de l'énergie sera valable si la température est supérieure à la température d'Einstein. La température d'Einstein dépend du module de Young. Nous avions vu que θE était proportionnel à oméga, qui est lui-même proportionnel à la racine du module de Young. Ainsi, plus un corps est dur, plus la température d'Einstein est élevée. C'est ainsi que la température d'Einstein pour le cuivre est de 250 Kelvin, alors que la température d'Einstein pour le diamant est de 2000 Kelvin. En conséquence, on observera des déviations à température ambiante plus importantes lorsque les corps sont plus durs. Donc l'argument statistique qui intervient dans la description de la capacité thermique des solides à basse température est tout à fait voisin de celui qui intervient dans la description de la thermodynamique du rayonnement. Dans ce dernier cas, il s'agit d'une assemblée de photons de pulsation oméga et dans la densité spectrale de rayonnement, la formule de Planck, il apparaît un terme en exponentiel h bar oméga sur kt moins 1, analogue à celui que l'on a vu dans la capacité thermique des solides. Dans le modèle d'Einstein, les différents oscillateurs harmoniques sont indépendants les uns des autres. En fait, les vibrations sont couplées entre atomes, c'est dire qu'il faut considérer des modes de vibration collectifs du cristal qui, dans leur version quantique, s'appellent des phonons. Et bien ça, c'est l'objet du modèle de Debye qui prend en compte une relation de dispersion entre la pulsation et la longueur d'onde et qui a été développé en 1912.